Vous écoutez, on lit pour vous.
Avec En marche, l'amour et la résistance queers. Tout le monde est invité à la fête. Un texte d'Amélie Revers, paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir. On était deux petites météorites qui se sont frôlées par hasard sur la piste de danse et qui se sont retrouvés quelques décennies plus tard. Se souvient Noam Gonick, réalisateur du film « En marche ». L'amour et la résistance queers, à propos de sa rencontre avec l'idéatrice et productrice du film pour l'ONF, Justine Pimlott. Ils sont tous les deux originaires de Winnipeg, mais c'est à Montréal, quelque part sur le plateau, que l'étincelle s'est en effet produite. Le cinéaste gay est alors étudiant en cinéma à Toronto et se rend régulièrement dans la métropole québécoise pour passer du temps avec ses amies lesbiennes, très politisées, que Justine Pimlott fréquente aussi. Justine et moi, on partage les mêmes préoccupations, la même vision du monde, qui sont les bases d'une collaboration riche, dit-il. Aujourd'hui, leur documentaire, En marche, retrace ainsi les moments clés du militantisme qui ont façonné le mouvement LGBTQ+, au Canada, et rend hommage à celles et ceux qui ont su résister et paver la voie à l'inclusion. On voulait que le film soit cinématographique, qu'il nous plonge visuellement au cœur des grandes mobilisations, qu'on ressente physiquement notre histoire, explique Justine Pimlott. De fait, le film baigne dans une large gamme d'émotions. On y pleure, on y rit, il y a de l'amour, de la tendresse, de la violence, beaucoup de résilience. C'est ce qui fait la beauté de notre communauté. Elle est plurielle, complexe, profondément humaine, ajoute celle qui avait le projet en tête depuis longtemps. Il s'agit d'histoires qui se sont déroulées au fil de ma vie, sur les 50 dernières années, et que bien des gens ignorent encore, pas seulement dans la communauté LGBTQ+, mais dans l'ensemble de la population canadienne. Pour la productrice, l'heure est donc venue de braquer les caméras sur les aînés afin qu'ils puissent transmettre leurs récits au plus grand nombre. Ces histoires nous rappellent sur qui, sur quoi repose la lutte pour nos droits, assure-t-elle. Un Québec avant-gardiste. En marche évoque notamment l'histoire de la Québécoise Janine Maes, internée à l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu pour homosexualité au début des années 1960, l'une des premières, sinon la première, à clamer haut et fort son lesbianisme dans les médias. Ce qui nous a frappé dans cette archive de Radio-Canada, c'est son regard direct, sa douceur, sa détermination tranquille. Janine affirmait son désir sans détour, avec une forme de calme radical. Cette archive a été un véritable choc pour nous, indique Justine Pimlott. Et Noam Gonick de Renchérir, on a tout de suite compris que cette entrevue avait dû être un moment marquant, presque sismique à l'époque. Quand ils se rendent compte qu'elle est peut-être encore en vie, le réalisateur et la productrice remuent ciel et terre pour retrouver Janine Maes. La recherchiste d'archives et spécialiste en libération des droits, Nancy Marcotte, est celle qui, grâce à son réseau de contacts, a pu remonter jusqu'à Janine Maes. Elle est notre doyenne, notre pivot. Alors quand on l'a trouvée, C'était vraiment génial, se souvient cette dernière. Quand Jeanine Maes accepte de témoigner, le documentaire prend tout son sens. On savait qu'on voulait commencer En Marche dans les années 1960, à l'époque où l'homosexualité était encore criminalisée. Mais là, pouvoir s'entretenir avec cette lesbienne du Québec, on s'est dit « Oh mon Dieu !» mentionne Noam Gonick. Nancy Marcotte se réjouit en outre d'avoir participé à la production du film. Ça m'a permis, parce que j'étais militante à l'époque, de revisiter mon passé, d'être fière de ce qu'on avait accompli en tant que femme québécoise lesbienne qui partageait des choses, découvrait leur sexualité, était ouverte au monde, aux arts, à la joie, confie-t-elle. La recherchiste souligne également que c'est au Québec qu'ont eu lieu les premières avancées des droits LGBTQ+, en Amérique du Nord, avec l'intégration de l'orientation sexuelle dans la Charte des droits et libertés québécoises en décembre 1977. Montréal et Toronto étaient des endroits sécuritaires pour nous, pour pouvoir sortir du garde-robe. Ce n'est pas étonnant que ces deux villes-là aient été très, très fortement investies par du monde qui venait de partout, croit-elle. Pour Noam Gonick, il était donc impensable de réaliser En Marche sans faire la part belle à l'histoire québécoise du mouvement. Le Trux, le Sex Garage, deux bars montréalais visés par des descentes policières, tout ça, c'était crucial pour nous. Il s'agit d'une histoire canadienne qui ne se résume pas à Toronto, car il s'est aussi passé énormément de choses à Montréal, et les deux villes se sont mutuellement inspirées, précise-t-il. Le combat continue. Malgré ces pas de géant, l'équipe d'En Marche s'inquiète de voir les droits des personnes LGBTQ+, à ce point menacés en 2025. On ne s'attendait pas à ce que le débat devienne aussi polarisé au moment de la sortie du film. Le monde a changé. Il y a ce besoin de rappeler les choses, parce qu'il faudra peut-être bientôt remettre tout ça en pratique, affirme Noam Gonick. Pour sa part, Nancy Marcotte invite à ne pas rester les bras croisés. Même si le Canada est un pays très social-démocrate, très ouvert, les mauvaises influences peuvent venir de partout. Quant à Justine Pimlott, elle pense que le documentaire peut apprendre aux jeunes générations à se battre pour leurs droits, les protéger, en gardant à l'esprit le sens de la communauté et du partage. La vraie leçon du film, c'est peut-être ça, en fait. Il devrait y avoir plus de fêtes, car on ne sait jamais qui on va y rencontrer, ni comment une rencontre peut changer une vie. Danser, c'est une célébration, mais c'est aussi une manière de libérer une énergie accumulée par des années de lutte, assure Justine Pimlott. Son conseil? Commencez à en organiser dès maintenant. Tout part toujours d'une fête, comme En Marche, conclut Noam Gonick, qui continue de voir Montréal comme une ville vibrante, pleine de vie, propice à la résistance. C'était avec En Marche, l'amour et la résistance queers, tout le monde est invité à la fête. Un texte d'Amélie Revers, paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir.
Les archives lesbiennes s'exposent aux mêmes. Un texte de Julie Vaillancourt, paru le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue. Dès le 25 juin, l'exposition « Pour que nos mémoires vivent » sur les traces d'une histoire lesbienne à Montréal sera présentée gratuitement au Centre des mémoires montréalaises, MEM. Réalisée en collaboration avec le MEM, cette exposition des archives lesbiennes du Québec promet de sortir de l'ombre les réalités lesbiennes, de l'âge d'or du lesbianisme dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Entrevue avec Laurine Dumas-Vanella et Louise Turcotte. La genèse de cette exposition débute par un concours de circonstances. Inspiré du 40e anniversaire des archives lesbiennes, explique Louise Turcotte, militante de longue date, impliquée au sein des archives depuis belle lurette. Le MEM a eu une vingtaine de propositions dans lesquelles il devait en choisir trois. Le MEM nous a choisi, notamment, car les archives lesbiennes, il n'en avait jamais entendu parler. Sans conteste, les archives furent surprises d'avoir été choisies pour s'afficher sur la place publique, appuie Louise. Ainsi, Laurine Dumas-Vanella, jeune militante française installée depuis quelques années à Montréal, ayant collaboré avec les archives et les éditions Sans fin, fut embauchée pour chapeauter le projet. En fait, on est parti de l'exposition du 40e, mais on l'a mûrie, étoffée, plus réfléchie. C'est un aperçu de l'histoire des lesbiennes à Montréal, en particulier de la communauté francophone qui s'est formée sur le plateau Mont-Royal au début des années 80 et qui a été qualifiée d'âge d'or du lesbianisme avec la création de plein de lieux, qu'ils soient commerciaux, artistiques, communautaires, bref, des initiatives qui y sont nées. Enfin, il y avait vraiment une convergence d'énergie lesbienne. On y présente donc les lieux et événements importants, avec une cartographie murale, ainsi que des affiches, photos, vidéos explicatives, des émissions de radio, dont Lesbosons et Interférences lesbiennes, sans oublier des artefacts, revues à feuilleter, explique Laurine. On suit aussi cette communauté dans les années 90 et la naissance de nouvelles générations lesbiennes, donc du coup de nouvelles luttes, de nouveaux lieux, la naissance du village. Il y a aussi, dans la dernière partie, un focus sur le travail de valorisation qui a été fait par rapport à cet héritage par les archives lesbiennes depuis la création du dernier collectif en 2016. Il y a des périodes plus documentées que d'autres, mais ça couvre vraiment une période large, soit 4 décennies, de la création jusqu'à aujourd'hui. Cela dit, lorsque l'aventure de l'exposition a débuté, les archives se sont retrouvées en face d'une lacune récurrente, soit le manque de photos pour illustrer le propos, explique Louise. À l'époque, tu sais, on n'avait pas les réflexes de maintenant avec les téléphones intelligents pour documenter les événements. Celles qui prenaient des photos, c'étaient les photographes qui venaient. Ainsi, elles sont allées chercher l'aide de Suzanne Gérard, qui a fait partie du groupe Plessigraph, dont les archives seront conservées au musée McCord, et Marie Boudreau, membre du Plessigraph également. J'ai contacté Suzanne en lui expliquant le projet et elle a été absolument généreuse. Elle a accepté de nous donner des photos pour l'exposition. Elle a des milliers de photos, mais notre expo était vraiment concentrée sur les années 80-90, sur le plateau, car notre volonté c'était de parler du village de lesbiennes qui était le plateau Mont-Royal à l'époque. Pour Maric, on tenait beaucoup à une photo qui était difficile à avoir sur la manif de 83, parce qu'on a encore, aux archives, la bannière du contingent qui avait 400 lesbiennes le 8 mars 83 et nous allons l'exposer. Écoute, une bannière datant de 1983 qui a été mise sur tissu, de 12 par 24 pieds sur le mur, c'est magnifique, avec le grand mot « lesbienne » dessus. Mentionnons aussi l'apport du réseau VDL, créé par Suzanne Vertu et Diane Effernan, qui célébrera d'ailleurs son 50e anniversaire pour l'occasion. Qui plus est, le documentaire Lesbiana, une révolution parallèle de Myriam Fougère fera aussi l'objet d'une présentation spéciale durant l'exposition. Il en est de même pour la chorale lesbienne. Bref, il y aura maintes activités organisées parallèlement à l'exposition pour sortir de l'ombre la communauté et les initiatives lesbiennes. Plusieurs lesbiennes connues de la communauté ont collaboré à cette exposition, mentionnons notamment Diane Trépanière, Sophie Picard et Josette Bourque. Qui plus est, l'exposition vise également à générer le dialogue entre les diverses générations de lesbiennes, explique Louise. Ce qu'on vise, effectivement, c'est d'essayer de faire comprendre aux jeunes qu'est-ce que ça voulait dire d'être lesbienne à cette époque-là, parce que les lesbiennes ont une histoire. D'ailleurs, puisque Louise et Laurine sont des lesbiennes de différentes générations, terminons avec la question qui tue, soit « Le plus grand enjeu pour les lesbiennes de votre génération respective ?» Débutons par la réponse de l'aînée, Louise. Ça, c'est une grande question. Je pense que, pour ma génération, avec toutes les activités que les archives ont faites et qui ont remis ensemble les lesbiennes qui ont vécu ces années-là, c'est tellement important de faire voir et de faire comprendre quel était notre esprit à ce moment-là. De transmettre aux jeunes tout simplement, même si le problème c'est qu'elles ne s'identifient plus beaucoup avec ce terme-là. Maintenant, c'est pour ça que celles qui veulent s'identifier dans le mouvement queer ont choisi le terme « lesbo-queer ». Donc, effectivement, tu fais cette identification comme lesbienne, mais dans un mouvement queer, alors que nous, à l'époque, on était lesbiennes dans un mouvement féministe et dans un mouvement lesbien, et dans un mouvement anglais, c'était une autre façon de s'exprimer à l'époque. Et Laurine d'enchaîner, le terme « lesbo-queer », c'est quand même assez spécifique au Québec, en tout cas au Canada, et peut-être du coup un peu à l'Amérique du Nord, parce qu'en France, à ma connaissance, le terme n'est pas utilisé. J'ai l'impression que ces dernières années en France, il y a quand même eu cette revalorisation du terme lesbienne, avec plus de lesbiennes qui s'identifient comme telles et qui en font un geste politique. Donc il y a un écho aux années 70-80 où ce terme était très valorisé. Par rapport à l'exposition, je trouve que c'est hyper important justement que des lesbiennes d'une autre génération, plus jeunes, aient accès à cette histoire-là, parce que du coup c'est accessible à un plus grand nombre, et je trouve que c'est important pour les lesbiennes plus jeunes de connaître leur histoire. Qui plus est, l'histoire favorise le dialogue. Oui, je pense que c'était ça le but aussi, appuie Louise qui cite l'époque de l'école Guilford comme sa plus mémorable mémoire lesbienne montréalaise. C'est de faire connaître l'histoire aux jeunes lesbiennes, sans oublier qu'il faut être quand même pédagogique et accessible dans l'approche, parce que c'est aussi une exposition pour le grand public. Ainsi, 42 ans après la création des archives lesbiennes Traces, les archives lesbiennes du Québec vous invitent à explorer, à partir de leur fonds documentaire, la riche et dynamique histoire de la communauté lesbienne d'ici. Une façon pour la communauté, mais aussi pour le grand public, de découvrir, redécouvrir comment s'est façonnée l'identité lesbienne montréalaise. Et ce, en attendant la tournée des archives lesbiennes en région. Info: l'exposition gratuite au Centre des mémoires montréalaises, MEM, 12-10 boulevard Saint-Laurent à Montréal, se déroulera du 25 juin au 12 octobre 2025. C'était « Les archives lesbiennes s'exposent au MEM », un texte de Julie Vaillancourt paru le 16 juin 2025 dans le magazine Fugue.
En position de voir ou pas, un texte d'Émilie Nicolas paru le 5 juin 2025 dans Le Devoir. Il m'arrive d'éviter les nouvelles qui portent sur le procès de Gilbert Rozon. Pas que le dossier ne m'intéresse pas. Mais lorsqu'on a vécu et été témoin de son lot de harcèlement et d'inconduite sexuelle dans les lieux de pouvoir, l'affaire vient ressasser des souvenirs. Je ne m'attendais pas à être aussi dérangée par les témoignages des amis et collègues de longue date de Rozon, venus expliquer cette semaine qu'elle et eux n'ont jamais rien vu, jamais rien entendu, et que l'accusé s'est toujours comporté en leur présence comme un parfait gentleman. Si ces tactiques de défense pourtant attendues sont venues me secouer, c'est parce qu'elles illustrent à merveille comment le pouvoir, la réputation, la crédibilité et la silenciation fonctionnent plus largement au sein de la société, bien au-delà du cas de Rozon. Je m'explique. Avant le mouvement hashtag moi aussi et l'utilisation des médias sociaux pour dénoncer le harcèlement sexuel, il y avait déjà les confidences que les jeunes femmes qui s'impliquaient politiquement et socialement se faisaient entre elles pour se garder en sécurité. J'ai encore en tête les noms d'hommes en situation de pouvoir, élus, conseillers politiques, lobbyistes, journalistes, porte-parole, DG, avec lesquels il valait mieux ne pas se retrouver dans un coin isolé de Grande Allée, d'un bar d'Ottawa ou de l'hôtel d'une conférence à Montréal ou Toronto au cours de ma vingtaine. Maintenant que je suis chroniqueuse, il y a moins de probabilité qu'un tel homme se comporte de manière complètement déplacée à mon égard. Si c'était une tendance lourde chez lui, je serais maintenant moins à même de le savoir qu'avant. Comme bien des gens, en prenant de l'âge, en progressant dans ma carrière, j'ai gagné un accès à des milieux dans lesquels je n'étais pas la bienvenue de la même manière avant. Il y a bien des façons dont ce gain de capital social, comme on dit dans le jargon, augmente mon accès à l'information, particulièrement en ce qui a trait au milieu politique et journalistique. Mais paradoxalement, je sais aussi que j'ai perdu l'accès à d'autres types d'informations en progressant de la sorte. Plus je côtoie le milieu culturel de Montréal, moins j'ai des raisons de croire qu'on y fonctionne très différemment du milieu politique. Les femmes, en particulier les jeunes femmes, et de manière générale les gens en position de novice auxquels on ne fait pas attention, ont accès à des facettes du caractère des individus en situation de pouvoir qu'on perd en montant en grade. Ce que je décris ici est plus large que la seule question des crimes à caractère sexuel. J'ai écouté des amis me raconter, pratiquement en tremblotant, comment les patrons les avaient traités lorsqu'ils étaient simples stagiaires. Des patrons qui reçoivent de leur père à peu près le même genre d'éloge auquel a droit Rozon cette semaine. C'est que le côté moins glorieux des gens se révèle d'abord et surtout à celles et ceux qu'ils ne voient pas comme des personnes d'importance, ou en fait qu'ils ne voient pas du tout. La vérité, c'est que les narcissiques malveillants ne sont pas cons à temps plein. Le prestige, le capital social, ça compte énormément aux yeux d'une personne qui se valorise d'abord par l'image qu'on a d'elle. Les gens ambitieux vont souvent être plus ou moins consciemment utilitaristes dans leurs relations sociales. On se montre sous son meilleur jour aux personnes qu'on calcule comme des contacts à soigner. Ainsi, plus on dispose soi-même de capital social, plus on doit composer avec l'idée selon laquelle certaines personnes ne voudront plus nous montrer que leur plus beau visage. C'est plaisant, c'est flatteur, mais ça coûte aussi une certaine forme d'accès au réel. Plusieurs personnes qui sont passées d'employés à cadres, par exemple, vont reconnaître cette forme de gain et de perte d'accès aux confidences qui vient avec le pouvoir. Le problème, c'est que certaines personnes disposent de ce capital social depuis tellement longtemps ou disposent depuis toujours d'un tel privilège qu'elles ne savent pas qu'elles ne savent pas. Ça nous mène à des situations absurdes. Mardi, un ex-premier ministre, en l'occurrence Pierre Mac Johnson, nous a assuré qu'il n'a jamais été témoin de comportements problématiques de la part d'un ex-PDG. Roson. On nous présente sa longue relation avec Roson et sa propre réputation comme un gage de crédibilité. Comme si un ex-premier ministre n'était pas, de manière générale, une des personnes les moins à même d'avoir accès aux côtés les plus sombres de qui que ce soit ou à attirer à lui les confidences particulièrement délicates de femmes récemment traumatisées. Comprend-on bien l'effet du pouvoir sur les relations sociales? Parce que cet exemple du procès de Roson est loin d'être isolé. On a tendance, lorsque la réputation d'une personnalité publique est remise en question, à demander l'avis de pairs qui jouissent eux-mêmes de grand capital social ou d'autorité. Ces gens n'ont souvent rien vu, rien entendu, et enterrent ainsi la parole et l'expérience des femmes ou de subalternes qui dénoncent une réalité contraire. C'est pourquoi je crois qu'il y a dans cette affaire matière à réflexion plus large. Il y aura toujours des boys clubs qui se protégeront sciemment entre eux, une malveillance qu'on ne peut que dénoncer. Mais il y a aussi une partie des plus privilégiés qui tombent réellement des nues quand on leur révèle certains comportements des bons gars qu'ils ont tant côtoyés. Les gens qui ne savent pas qu'ils ne savent pas et qui croient que si eux ne voient pas, il n'y a nécessairement rien à voir. Si on prenait l'habitude de se demander si on est en position de voir, on se retrouverait moins souvent dans des situations où des gens font peser leur pouvoir pour se mettre dans le chemin du progrès social, et ce, dans un ensemble de contextes. C'était « En position de voir ou pas », un texte d'Émilie Nicolas, paru le 5 juin 2025 dans Le Devoir.